Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre magazine d'actualité du week-end. Deux reportages figurent au sommaire de cette émission, dont la culture d'Enesa Tomanova vous emmène à nouveau au festival du Cirque Nouveau, Circopolis. Cette fois, c'est pour découvrir l'univers d'octobre, une compagnie et pas le mois d'automne. Et puis, dans sa rubrique littéraire, Václav Richter explore une monographie de l'architecte Jan Blaží Santini Eichel. Vous écoutez Radio Prague, très bonne écoute. La deuxième édition de Circopolis, le festival d'un cirque nouveau, désormais très apprécié du grand public tchèque, accueillit mi-février à Prague plusieurs troupes françaises. Après la compagnie De Facto la semaine dernière, nous vous présentons cette fois l'univers d'Octobre, une compagnie qui en a étonné plus d'un. Composée d'un champion du monde de la magie, d'un acrobate quasi extraterrestre et d'une trapéziste vénusienne, la petite troupe d'Octobre a été acclamée à trois reprises au théâtre Ponetz dans le quartier du Žižkov. Jan Frisch, Jonathan Frau et Eva Ordonez Benedetto ont présenté leur spectacle sauvage dans une atmosphère très mélancolique où l'humour noir côtoyait avec fierté la complexité des sentiments liés à la peine, à la faiblesse et à la peur. Enesa Tomanova s'est entretenue avec Eva Ordonez Benedetto, la trapéziste de la compagnie dont la performance fascinante a suscité de nombreuses émotions.
Culture sans frontières.
C'est clair qu'ici on a un problème. C'est la question des des comportements, notamment. Mais surtout l'attitude. Toi. Et toi. Et toi aussi, là. Vous tous, vous me fatiguez. C'est pas facile.
Imagine-toi, mets-toi à ma place.
L'école du cirque Le Lido à Toulouse, en France. On était à la même promo et quand l'école s'est finie, en deuxième année, tu dois monter un projet et c'est là qu'on a choisi de faire un chose à trois, fin de l'école. Et ça, c'était. On a fini l'école en 2010. En 2010, on a choisi de faire quelque chose ensemble.
Quels sont les différents éléments qui font partie, qui sont intégrantes de votre spectacle?
C'est un spectacle de cirque, mais qu'il essaye de mêler dans le cirque une espèce d'ambiance, d'univers très esthétique. Et, sans dire qu'on fait du théâtre, parce qu'on n'est pas des comédiens, mais quand même il y a une charge théâtrale dedans. Il y a la magie nouvelle, acrobatie, magie, trapèze, théâtre.
Comment vous les avez intégrés, tous ces différents, on va dire, domaines artistiques, dans un seul spectacle?
On avait beaucoup d'idées, nous trois, et beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, mais on savait pas comment faire pour mettre tout en place. Et c'est là qu'on a appelé Florent Bergal, qui est notre directeur. Et avec l'aide de lui, on a pu mettre tous les éléments à sa place et faire, comme tu dis, une chose avec un peu de chaque chose.
Et quels sont un peu les thèmes ou les sujets que vous mettez en relief?
Nous, on met en relief les relations humaines. La folie un peu aussi, je dirais, la solitude, mais tout ça très très derrière, c'est, on ne parle pas de ça, les personnages ils vivent des choses comme ça, mais c'est jamais on tombe dans l'écriture d'une histoire. Et je crois qu'on pourrait dire que c'est le caractère des trois personnages qui, entre eux, ils vivent des choses. Et c'est très surréaliste. On peut mourir, on peut se taper, on peut revivre. C'est très surréaliste. Jamais on oublie le côté rigolo. C'est noir et mystérieux, mais toujours on rit de ça. C'est pas dramatique.
Vous avez également été récompensé par le prix européen Circus Next,
oui,
en 2012-2013. Est-ce que la concurrence, elle est ardue dans ce domaine?
Oui. C'est Circus Next en spécial, c'est très, très... il y a beaucoup de compagnies qui se présentent et beaucoup de gens qui connaissent. Et en plus, c'est européen. Avant, c'était, je pense que français, maintenant, c'est européen. Du coup, il y a beaucoup. Ouais. C'est assez difficile, je crois, rentrer dedans. Et aussi, t'as un peu la pression, des fois, dans la présentation publique et tout ça.
Et comment s'est passée justement cette sélection? Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement pour avoir ce prix?
Au début, tu fais un dossier. Et la première sélection, c'est pour dossier. Et là, on était pris au dossier. Après, tu dois faire 20 minutes en face au jury. Et je crois qu'il y a une trentaine de compagnies qui sont sélectionnées pour les 30 minutes. Et là, ils choisissent 5 ou 6. Et on était choisis. Et quand tu es 5 ou 6, tu as 6 mois pour retravailler les 20 minutes. Et ils te donnent des endroits de résidence et un peu d'argent. Et après 6 mois, tu fais la présentation publique pour des professionnels. Et on a tout fait ça et c'était bien, ça aide un peu à justement faire face au public dans ce moment.
Et alors justement, ce prix, en quoi concrètement il vous a aidé?
Ce prix, il donne un peu d'argent, que quand tu es en compagnie qui est en train de se monter, l'argent, c'est toujours bien. Il te donne des possibilités de résidence. Résidence, c'est un endroit pour quelques jours avec un salle pour pouvoir travailler. Et beaucoup de visibilité internationale, quand même.
Et jusqu'à présent, quels sont les pays, les villes que vous avez parcourues?
Beaucoup la France, parce qu'on est en compagnie basée en France. Du coup, beaucoup la France. Avignon, Auch. Toulouse, oh non, beaucoup, je vais oublier quelques-uns. On a fait la Belgique, on a fait République tchèque, et on a un calendrier où on a Allemagne, Suède, je dois oublier, on était à London, et l'année prochaine on va aller déjà Amérique latine et Amérique du Nord. C'est bien ça.
À propos de différentes villes, l'atmosphère au sein du public est-elle différente toujours d'une ville à l'autre?
Oui, ça change un peu. Ça dépend aussi la. Des fois, en France, le public il est très habitué à voir du cirque ou du théâtre, ou en Londres. Mais des fois, il y a quelques villes, comme par exemple Trutnov, où on était, où il y a moins. Et là, change. Le public il est beaucoup plus. Surpris, beaucoup plus accueillant qu'en quelques endroits où ils sont tellement vus des choses que des fois ils vont être moins surpris.
nous sommes à Prague. Suivez-vous ce qui s'y fait artistiquement ou est-ce que vous entretenez des liens avec les artistes d'ici?
Un peu, oui. On est très proche à Charka, que c'est elle qui bouge un peu les Circopolis, les petites écoles de cirque qu'il y a, et c'est elle qui nous a fait venir. Je ne pourrais pas dire qu'on connaît beaucoup, mais il y a quelques liens, oui. Moi, j'ai donné un stage de trapèze pour des élèves ici, à l'école.
Quel est votre rapport au terme de cirque nouveau ou cirque contemporain? Est-ce que vous vous y reconnaissez un peu dans cette définition du cirque nouveau?
Je ne crois pas que nous, on va s'encadrer là, mais en même temps, on est déjà là, parce qu'on est des jeunes déjà. On a entre 25 et 28 ans. On vient de sortir d'une école, c'est notre premier spectacle. Et les références qu'on a et l'endroit où on est sorti, que c'est en France, qu'il y a beaucoup, le cirque est nouveau, il y a beaucoup. Moi, je pense qu'on ne peut pas échapper à rentrer dans le cadre.
Est-ce que vous-même, vous avez une définition du cirque nouveau? Ou est-ce qu'on peut donner une définition du cirque nouveau?
Moi, je peux tenir personnellement quelque chose que ça me vient. Le cirque nouveau, il essaye un peu de donner un peu plus de sentiments et des émotions à la technique de cirque, que soit un peu moins démonstratif et donner de différentes couleurs, des émotions, tristesse, peur, joie, mystère, et de les lier un peu plus, moins à la façon cabaret, plus à la façon justement sentimentale, ou d'une histoire, ou d'un sentiment, un personnage. Je crois qu'il essaye un peu de sortir le cirque de la performance un peu, sans baisser la technique.
Qu'est-ce qui continue de vous fasciner dans ce que vous faites?
Bah, c'est toujours un plaisir quand commence le spectacle et t'as un public devant. Ça, c'est toujours... Ça me fascine. À moi, je pense que ça, c'est une des choses pourquoi je fais ça, c'est pour le public. Et après, le cirque, quand même, c'est une passion. Et s'entraîner et essayer de faire de nouvelles figures et essayer de penser comment tu vas les mettre en place, comment tu vas écrire avec ça. Et je crois que l'écriture du cirque, ça, c'est une chose qui me fascine beaucoup. Et la rencontre avec un public, et comme on disait avant, de différents pays, ça change, et c'est très riche, et voyager, je crois que ça c'est la principale chose pour laquelle je fais ça.
Et dans la seconde partie de cette émission, dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous fera connaître une nouvelle monographie de l'architecte du tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, Jan Blažej Santini-Eichel, un des plus grands artistes ayant vécu et travaillé à cette époque en Bohême.
Rencontre littéraire. Né en Italie, l'art baroque s'est rapidement répandu dans les pays de la couronne tchèque et a donné des fruits d'une grande valeur artistique. Parmi les représentants les plus illustres de ce style sur le sol tchèque, il y a l'architecte Santini, qui, trois siècles après sa mort, est encore capable de susciter un véritable engouement pour son œuvre et dont les admirateurs se réunissent dans une association. Stanislav Ružička, fondateur de cette organisation nommée Pèlerinage sur les traces de Santini, est également le co-auteur d'un livre sur ce grand architecte baroque. Avec le photographe Vladimir Kunst, il a signé un ouvrage intitulé tout simplement « Santini ». Le grand-père de Santini vient d'Italie du Nord, s'établit à Prague en 1635 et épouse une jeune fille de la ville de Plzeň. Son fils se marie plus tard avec une Pragoise et c'est donc à Prague que naît le 3 février 1677, dans la famille d'un tailleur de pierre, Jan Blažej Santini Eichel. À sa naissance, sa famille est déjà établie en Bohême depuis deux générations et il sera donc considéré comme un architecte tchèque d'origine italienne. L'enfant est partiellement paralysé, restera boiteux pendant toute sa vie, ne pourra pas hériter du métier traditionnel de sa famille et ne remplacera pas son père dans son atelier de tailleur de pierre. Il fait quand même l'apprentissage de ce métier et étudie également la peinture. Avant 1699, il fait un voyage initiatique en Autriche et en Italie, où il verra les réalisations du grand architecte baroque Francesco Borromini. Stanislav Ružička constate que le génie de ce jeune homme handicapé s'est manifesté très tôt.
Santini a jeho příběh je nesmírně bohatý a košatý. Santini začal produkovat.
L'histoire de Santini est très riche et ramifiée. Il a commencé à travailler comme architecte à l'âge de 23 ans, ce qui est incroyable pour nous. Il a reçu des commandes pour reconstruire les plus grandes églises en Bohême. Il n'a pas été le réalisateur de ses projets, il n'avait pas cette possibilité car il était handicapé. Il est mort jeune à l'âge de 46 ans. À l'époque où il préparait ses projets les plus importants, comme l'église de pèlerinage Saint-Jean-Népomoucène de Zelena Hora, le château Karlova Koruna, les cathédrales de Kladruby et de Sedlec, il était à l'apogée de ses forces. Il a disparu jeune et nous ne savons même pas où il a été enterré. Il ne nous a laissé que ces édifices que nous pouvons redécouvrir aujourd'hui.
Pendant sa carrière, Santini a préparé le projet de presque une centaine d'édifices religieux et profanes. Il travaille pour les prélats et les grands seigneurs de Bohême et de Moravie et jouit d'un grand respect dans le pays. Son œuvre d'architecte se nourrit de sa fantaisie hors du commun, mais elle est solidement basée aussi sur ses connaissances profondes des mathématiques, de la géométrie, de la numérologie. Empreint de la foi catholique, il s'inspire également de la Kabbale, tradition ésotérique du judaïsme et des styles architecturaux du passé. Dans certaines réalisations, il parvient à une étonnante synthèse des morphologies baroques et gothiques, créant ainsi son propre style qui le distingue nettement des autres architectes de son époque. C'est dans ce style qu'il crée entre autres l'église de pèlerinage Saint-Jean-Népomucène de Zelena Hora, monument qui figure aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il réussit magistralement à adapter ses réalisations au caractère du paysage tchèque. Le visiteur de ces églises et d'autres édifices qui portent la marque de son génie est subjugué par la façon dont il traite la lumière et par l'excellence des paramètres acoustiques de ses réalisations. Stanislav Ružička rappelle que les qualités exceptionnelles et intemporelles de cette œuvre architecturale ont été redécouvertes dans la deuxième moitié du XXe siècle par l'historien de l'art Mojmir Horina, qui lui a consacré une importante monographie parue en 1998. Ce livre de référence comprend aussi un catalogue très détaillé de l'œuvre de Santini. C'est avec Mojmir Horina que Stanislav Ružička et les membres de l'association Pèlerinage sur les traces de Santini préparaient aussi une autre publication.
Malheureusement, au moment où nous avons préparé la fondation de notre association, Mojmir Horina est mort. Nous étions déjà d'accord pour préparer une publication plus modeste, moins importante que sa monographie hautement spécialisée de 1600 pages, de préparer un livre moins encombrant, un livre qu'on pourrait amener en voyage. Malheureusement, le professeur Horina n'a pas eu le temps de le faire, et nous nous sommes mis à chercher quelqu'un dans le milieu culturel qui pourrait faire ce travail. Tout le monde était sous l'emprise du livre monumental de Horina, mais tout le monde se rendait compte également qu'il était impossible de le copier. C'était donc à nous de nous charger de cette tâche, de jeter sur Santini un regard original et de brosser son image colorée et attractive.
Bohemil Horina a sans doute été et reste encore aujourd'hui le plus grand connaisseur de l'œuvre de Santini et sa monographie de l'architecte restera encore longtemps inégalée. Stanislav Ružička désirait créer cependant un livre moins savant, moins ambitieux et plus pratique, qui pourrait servir aussi comme un guide à ceux qui aiment le grand architecte et désirent suivre ses traces en Bohême et en Moravie. Il a donc proposé au photographe Vladimir Kunst de collaborer à son projet.
Le photographe Vladimir Kunz et moi-même sommes originaires du plateau Tchéco-Morave et c'est une région où les gens sont très proches et où nous nous connaissons mutuellement presque tous. Moi, je connais la création de Vladimir, il sait ce qui m'intéresse, nous avons beaucoup d'intérêts communs, nous sommes amis. Il était donc logique de le laisser travailler librement. Pendant un temps, j'ai dû m'efforcer de le convaincre parce qu'il savait que c'était une grande quantité de travail. Il a finalement mis à ma disposition quelques 2000 photos de son propre choix. J'ai été obligé de choisir dans cette quantité énorme de 160 photos qui font partie du livre, mais aussi d'écrire les commentaires pour caractériser les différentes réalisations de Santini et les rendre compréhensibles sur le plan humain, sans obliger le lecteur à chercher sans cesse dans les notes et les références en fin d'ouvrage.
Pour éviter de glisser dans l'amateurisme et prévenir d'éventuelles erreurs, les auteurs du livre ont fait appel à trois spécialistes renommés, les professeurs Jan Reut, Ebit Vilnas, et l'historienne Irena Bukachova, qui se sont chargés de la révision du texte. Le livre devient donc une source de connaissances sur le grand architecte, mais aussi un outil nécessaire pour les membres de l'association Pèlerinage sur les traces de Santini. Fondée et animée par Stanislav Ružička, l'association organise des voyages touristiques pour les amateurs qui désirent visiter les églises, les châteaux et d'autres monuments conçus par cet architecte. Quelques 80 monuments signés Santini ont été conservés en République tchèque et il se peut que d'autres édifices n'aient pas encore été redécouverts. L'association collabore également avec 12 propriétaires et gérants de ces monuments. Stanislav Ružička se félicite aussi de la collaboration entre son association et le ministère de la Culture.
Santini est simplement un phénomène qui réunit les gens. Depuis quelques années, nous sommes en bon terme avec le ministère de la Culture qui prend en considération non seulement l'importance de Santini, mais aussi celle des associations civiques qui ne manquent pas d'inventivité et de nouvelles idées et sont capables, par exemple, de préparer le projet de pèlerinage sur les traces de Santini. C'est notamment grâce au ministère de la Culture qui a pris en charge la moitié des frais que nous avons pu publier notre livre.
Notre émission de ce samedi s'achève donc avec la rubrique littéraire. Merci de l'avoir suivie. Lucia Drexelová au micro vous souhaite très bon reste du week-end et si nos émissions vous manquent, consultez notre archive en ligne sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.